Dans les villes de moins de 100 000 habitants, les petites villes, il n'y a pas cette obligation de créer des comités de quartier.
Oui, nous, on n'y en a pas, ça
voilà. Et bah, depuis des dizaines d'années maintenant, les élus locaux, les édiles, sont habitués à ce qu'il n'y ait aucune contestation sur, sur leurs décisions. Alors, ils partent du principe démocratique qu'une fois tous les 6 ans, ils ont la ratification du peuple,
ouais,
et que, fort de cette élection, ils ont une légitimité qui va durer 6 ans et qui ne doit pas être contestée, quelle que soit l'édition qu'ils prennent. Bon, alors, le problème de la forfaiture, des malversations, c'est un autre problème. Hein. Oui, mais ne serait-ce que dans le cadre de la, tout simplement de la, du débat et de la contradiction par rapport à des décisions qui sont prises, ils ne sont pas du tout habitués à ça. Et lorsque vous leur dites, bah, écoutez, nous sommes regroupés, là, un certain nombre de citoyens du coin, et nous avons décidé de créer une assemblée citoyenne, locale, l'assemblée, on l'appelle assemblée, elle n'a aucun pouvoir juridique, elle ne rentre dans aucun cadre de la constitutionnelle, mais il n'y a pas non plus de disposition juridique qui nous empêche de le faire. Et ben, nous nous proposons, monsieur le maire, tout simplement d'éplucher tous les PV des conseils municipaux et puis de vous dire ce qu'on en pense. On ne cherche pas forcément la petite bête, mais bon, peut-être qu'il y a certaines décisions que... peut-être si vous aviez consulté la population, la population n'aurait pas été d'accord. En tout cas, nous sommes, non pas la prétention d'être la voix de la population, mais nous sommes une voix différente.
On
donne notre avis. Et ne serait-ce que ça, d'abord, voir que ça peut exister, voir qu'il y a des citoyens qui peuvent avoir suffisamment de motivation pour se réunir, s'organiser, avoir des réunions régulières et pas que ça parte en cacahuète au bout d'un mois ou deux, bon, c'est déjà quelque chose qui les fait réfléchir. Et ensuite, qu'on fasse soit des questionnements, c'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux d'interpellation de l'élu. Il y a le niveau du questionnement, c'est-à-dire, écoutez, nous avons lu que vous avez dit ça, on ne comprend pas ce que vous pourriez nous expliquer, on ne comprend pas telle et telle caractéristique de cette décision. Il y a donc le questionnement, il y a l'avis contraire, c'est-à-dire nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision que vous avez prise, et nous argumentons. Pensons que la décision que vous avez prise est mauvaise, aussi quels sont les arguments que nous mettons sur la table pour dire que nous, on en a fait autrement. Et puis, il y a le troisième volet qui est le volet de la proposition. Et il y a quelque chose dont vous ne parlez jamais dans votre conseil municipal, et nous, on aimerait bien que vous en parliez, vous voyez ce que ça fait. Donc, questionnement, éclaircissement, débat, contradiction. Débat contradictoire sur une décision, et puis démarche, processus,
on a fait des projets d'un nouveau sens. On fait partie depuis 20 ans d'une association qui est contre le projet. Et il y a eu des réunions d'avis, comment on appelle ça, d'utilité publique, avant de décider de ce projet, il n'est toujours pas décidé. Hein.
Ouais.
Et là, on a pu participer. Quoi. Il y avait les maires. Qui était pour,
oui,
alors. Il y avait des citoyens.
Non,
c'était un sujet donné.
Oui, alors, dans le cadre de ce qu'ils appellent la démocratie participative, sur des grands projets, d'ailleurs sortent du cadre de la commune, proprement dit, mais qui sont au niveau généralement de la région, il y a des directives qui viennent d'en haut, qui disent, bon, là, on va faire une enquête d'utilité
publique. Oui, c'est l'enquête d'utilité publique.
Voilà, et puis on va convoquer. Mais dans ces consultations participatives, c'est pas n'importe qui peut venir. Vous avez, bon, c'est, généralement, ils consultent les présidents d'associations.
Une association qui était constituée depuis 25 ans.
Voilà. Ils consultent les associations.
Ouais,
bon, donc on est représentant et représentant. La véritable démocratie citoyenne, c'est d'ouvrir la contestation à tout le monde.
Voilà. Il n'y a pas d'association, quoi.
Les associations peuvent venir, mais elles viennent.
C'est pas une association, je veux dire. On n'a pas de statut juridique, on n'a pas l'assemblée des citoyens, on n'a rien, quoi. Juridiquement.
Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. On est en train de travailler là-dessus. Là, pour l'instant, les assemblées citoyennes qu'on a créées, une à Couche et celle à Guignon, elles sont créées dans le cadre de l'Association pour la promotion des débats citoyens, l'association qui fait. Pourquoi ? Parce que pour demander des salles aux mairies, il faut être une association.
Oui. Enfin, oui, c'est vrai.
Je ne connais pas de mairie qui prête des salles à un particulier ou bien à une association qui n'est pas constituée. Donc, et d'ailleurs, à Guignon, ils nous ont demandé de les chapeauter parce que les Gilets jaunes, ils étaient informels. Ils voulaient créer une assemblée comme ça. Mais le maire a dit, oui, mais vous êtes qui ? Vous n'êtes pas une personne morale, donc je ne peux pas vous octroyer les salles municipales. Ici, par exemple, à la maison Berthier-Albrecht, comme au Palais du Travail, là où on fait des conférences, on ne peut pas louer de salle ou en bénéficier gratuitement selon le cas, mais de toute façon, que ce soit payant ou payant, bon, il faut qu'on soit une association.
Ouais, c'est ça. Enfin, voilà.
Bon. Et donc, de ce point de vue-là, on est obligé de passer par la phase de structuration pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir avoir des salles, pour pouvoir travailler. Si on n'a pas de salle, on ne peut pas travailler. Mais sinon, dans l'esprit, les gens vous disent, oui, mais les membres, le bureau de votre assemblée citoyenne, vous dites, non, il n'y a pas de membres dans l'assemblée citoyenne. Ce n'est pas une association avec des membres, un conseil d'administration, un bureau directeur, un président, un secrétaire. C'est ouvert à tous, c'est un service public. Voilà. Nous avons, alors là, quand on a dit ça au maire de Couche, on a dit écoutez, nous avons une vocation de service public parce que tout simplement, le service public ne fournit pas cette possibilité aux citoyens de venir s'exprimer, de venir débattre contradictoirement aussi bien de sujets qui ont trait au domaine national qu'au sujet qui ont trait au domaine régional ou local. Il n'y a pas de structure pour ça. Et donc, nous considérons que nous avons une vocation de service public. Alors bon, il souriait sous cap, mais nous l'avons quand même formulé.
Ouais, voilà.
Dans l'idée, dans l'esprit de la démarche, il ne faudrait pas que ça soit structuré en personne morale avec une association. Ouais. Mais techniquement, on ne peut pas s'en passer. Ou alors, il faut pouvoir bénéficier de sponsors, de mécènes qui vont nous prêter des salles. Voilà. La difficulté, mais bon, on arrive à la régler assez facilement, c'est de bien montrer que nous avons une structure juridique qui nous permet d'obtenir des salles, mais que l'assemblée locale citoyenne qui fonctionne, c'est pas une structure. Bon, il faut bien l'expliquer. C'est pas une structure. Pourquoi ? Parce qu'elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'adhésion. Ouais, on vient quand on veut. On est intéressé par un sujet, on vient. Et on vient pendant 2-3 mois, on arrête de venir. C'est un guichet ouvert. C'est donc du service public. C'est la définition du service public. Le service public, vous étiez là, je crois. Vous étiez peut-être pas là quand on a fait les deux sur le service public, avec les fameuses lois de Roland, qui ne sont pas des lois d'ailleurs entre parenthèses, mais l'une des trois conditions du service public, c'est la continuité. L'autre condition étant la gratuité, la mutabilité, mais la continuité, c'est un service public, il est continu. C'est-à-dire que j'en ai besoin, j'y vais, j'en ai pas besoin, j'y vais pas, mais si quelqu'un d'autre en a besoin, il y a le service public. Donc l'assemblée, elle est ouverte. Si il y a une assemblée tous les mardis, de 18h à 19h, c'est ouvert. Bon. Donc, pas d'adhésion, liberté d'expression, donc ça n'est pas... elle est apolitique en ce sens où l'Assemblée n'est pas gérée par une structure qui a une idéologie. Alors là aussi, il y a une confusion qui est contre laquelle il faut lutter. Enfin, faut bien se démarquer de certaines démarches qui actuellement sont en train de se développer, notamment dans le cadre des municipales de 2020. Hein, il y a, alors, notamment à Montceau-les-Mines. Un candidat pour les municipales de Vienne qui vient de créer ce qu'il appelle une assemblée. Hein? Bon, mais c'est une assemblée pour porter sa candidature.
D'accord.
Voilà. Donc les gens viennent, et puis il fait son prosélytisme. Ouais. Alors, bon, c'est vrai qu'il s'expose aussi à la contradiction, ouais. C'est vrai, mais c'est pas du tout le concept que nous on veut développer.
Non, c'est pas le même but.
Ouais, c'est pas du tout le même but. Voilà.
Ouais,
donc, voilà non, l'idée qu'on va.
L'Assemblée, elle s'appuie sur quand même une association république.
Alors, ces assemblées ne devraient pas. Ces assemblées, l'idée, c'est des gens.
Que vous aimez louer les salles et tout.
Voilà, on est obligé.
Vous étiez
lié. Mais, il faut bien expliquer à tout le monde. Qu'il y a une structure juridique derrière une association, d'abord qui n'est pas une association, c'est pas la France Insoumise, ou c'est pas LRM, ou c'est pas.
C'est pas loi d'innocent. Hein.
Oui, mais les partis politiques sont loi d'innocent aussi. Hein. Mm-hmm. Attention. Oui, les partis politiques sont des associations. Non, mais il faut regarder l'objet social. L'objet social est apolitique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça n'est pas un tremplin pour. Donc c'est un objet social qui ne doit comporter que des motivations techniques. Comme l'objet social de l'Association pour la promotion des droits citoyens, qui est de développer, de faire émerger des initiatives, de débats contradictoires entre les citoyens. Voilà, c'est tout. Mais bon. Et d'ailleurs, il est indiqué dans le social, l'association s'interdit toute appartenance politique, quelle qu'elle soit. Bon. Donc, c'est une association, oui. Une association, il faut lire le social, parce que association, ça veut dire beaucoup de choses, notamment tous les partis politiques sont des associations. Il faut regarder l'objet social. L'objet social dit très bien que le but de l'association, c'est uniquement de créer des structures. De débat.
Mmh. Bon. Ouais, c'est ça.
À partir de là, effectivement, ce qui constitue l'Assemblée citoyenne locale, c'est des gens qui se regroupent comme ça, qui se trouvent comme ça, et puis qui font fonctionner.
Il n'y a pas de statut, bien sûr. Hein.
Non, il n'y a surtout pas de statut. De l'Assemblée citoyenne locale, il y a un statut de l'association technique qui permet, qui porte le truc, mais l'Assemblée en tant que telle, elle n'a pas statut, c'est informel, c'est totalement informel. Alors, on ne peut pas créer de statut, parce que, en fait, si on dit que la vocation de service public, tout simplement, c'est une émanation de l'État. C'est ce que devrait faire l'État. L'État devrait mettre à disposition des salles pour les citoyens qui ont envie de discuter politique.
Oui, on peut imaginer ça, bien sûr.
Ouais.
Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as de l'affaire ?
Bah non.
Mais dans l'air.
Donc voilà l'idée qu'on va essayer de faire circuler et voir s'il y a des gens qui s'intéressent sur la région, sur Lyon. Et donc là, c'est par secteur, c'est regroupé, bonjour, je suis du deuxième arrondissement, je suis du troisième arrondissement, et dire, écoutez, on fait, nous à Couche, on fait une assemblée, deux assemblées par mois.
Ouais, c'est pas mal.
Le deuxième et le quatrième samedi de chaque mois. Et une par mois ou deux par mois.
D'accord.
Alors, en fait, il y a une demande assez importante. Une demande assez importante parce que les gilets jaunes, puis tout ce qui tourne autour des gilets jaunes, qui ont été habitués à faire une assemblée régulièrement, mais qui semblait qu'elle était opérationnelle, hein, quand est-ce qu'on se réunit, où est-ce qu'on va. Disons que le mouvement maintenant s'essouffle d'un point de vue pratique, d'un point de vue des actions concrètes, reste l'idéologie, et ils sont demandeurs d'avoir quelque chose qui puisse continuer au niveau de la réflexion. Donc, voilà. Sachant que vous étiez finalement à Candolle assez proche de cette...
Bah, disons que c'est un angle de tir, quoi. Ouais. Vous avez compris. C'est dans un certain sens. Quoi.
Ils vont bien aux délibérations, surtout quand c'est les délibérations de budget, mais maintenant, avant n'importe qui pouvait y aller, maintenant il faut s'inscrire.
Bah, nous, on voulait aller à une.
C'est-à-dire où
aussi bien à la mairie de Lyon qu'à la région. Il faut s'inscrire. Moi, on a voulu aller à la région.
Ah bon, c'est pas complètement ouvert.
Normalement, ça devrait être ouvert, mais maintenant, il faut s'inscrire par sécurité.
Et puis, sécurité.
Vigipirate.
On nous a dit.
On nous a dit
qu'on s'y prenait trop tard.
Ah bon. Ils mettent en avant Vigipirate.
La réponse, ils m'ont donnée à midi. Et la réunion était à midi 30. Habitant Saint-Jean-de-la-Valle, on ne pouvait pas aller à Paris. Il fallait arriver 20 minutes avant pour la sécurité.
Ils
ne
nous ont pas déroulé le tapis rouge, on va dire.
Disons qu'ils vous ont mis des bâtons dans les roues.
Ah, bah oui, c'est ça. Non, mais Canon, on voit ça tout le temps, les bâtons dans les roues.
Donc, alors qu'avant, Canon, un ou deux disaient bon, on y va, ils arrivaient, c'est tout. Quoi. Maintenant, il faut s'inscrire à Paris. Il faudrait que je demande à Canon quand on s'intéresse à ça.
Et il y a deux procès que vous avez gagnés ?
Oui, le procès pour les taxes des ordures ménagères. Et là, c'est un truc énorme parce qu'on parle de probablement 35 millions à rendre aux citoyens, enfin aux gens qui ont payé leurs taxes d'ordures ménagères.
Pour réclamer.
Et si ça va au bout, ça ira dans les 250 millions. Enfin, c'est un truc gigantesque. Mais ça durait 10 ans.
Sur toute l'agglomération lyonnaise ?
C'est surfacturé, c'est vrai.
Oui.
Ils ont pu démontrer que c'était surfacturé. Ça durait 10 ans. Hein.
Parce que sur les taxes d'ordures ménagères, ils n'avaient pas le droit de prendre des bénéfices. Et ils prenaient des bénéfices.
Oui, parce que c'est en principe c'est une délégation de service public.
Ah, ça. Et puis récemment.
Le Vortex, c'est la.
Ah oui, c'est ça.
Une entreprise qui s'occupe des transports d'antiquités.
Handicapés.
Et ils ont fait un marché, ça a été temps.
Et deux entreprises ont été retenues.
Et puis au bout d'un moment, on a dit, ce qu'on a dit, c'est pas suffisant, il faut faire un avenant.
Les entreprises ont demandé, et ont dit, on s'en sort pas. Ils ont dit ça à la métropole. Et la métropole leur a accordé 500 000 euros de comme ça, mais sans...
Plus.
Il fallait refaire
un marché. Non, mais ils sont pas à zéro près. Hein.
Je connais les chiffres, mais effectivement.
Normalement, la ville doit donner 1 400 euros à
Canal. Oui, c'est pour les frais d'un local.
Je ne pense pas qu'on les
envoie. Ils ont été condamnés aux dépens.
Oui, ils ont été condamnés à refuser l'ensemble. Cet avenant du bon marché qui est un avenant complètement bidon. Quoi. Les gens.
Disons que ça va être sur le site, parce qu'on va mettre des fiches.
Vous pouvez aller sur le site.
Oui. Et il va y avoir toutes les affaires qu'on a traitées, et avec les états et tout. Et vous pourrez avoir ça sur le fiche. La fiche, je pense que fin juin sera en point.
Pour les marchés publics, c'est agressant.
Alors, dans le cadre des réunions du grand débat que j'ai animé, j'en ai animé 9.
Ouais.
On a fait pas mal, dont 2 sur la fiscalité. Eh bien, il y a une chose qui est revenue très souvent, sans qu'elle soit sollicitée, c'est que comment faire, justement, pour être sûr qu'il n'y a pas de malversation au niveau des comptes publics, notamment dans les adjudications, c'est-à-dire les relations entre les collectivités territoriales et les entreprises.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bon, d'ailleurs, on connaît le népotisme, le copinage, voire les mafias. Oui. Comment faire? Et puis, alors, plus haut aussi, au niveau national, comme vous dites, gaspillage d'argent public. Alors, la Constitution dit, mais il y a la Cour des comptes. Voilà. Mais le problème, c'est un problème de principe. La question, c'est une question de principe. C'est une question de principe et un problème d'éthique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contrôler vous-même. Lorsque vous avez une entreprise dont l'État veut être absolument sûr que les comptes qu'elle donne en fin d'année sont exacts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'oblige de par la loi à avoir un commissaire aux comptes.
Ouais,
bon, et le commissaire aux comptes, par définition, ne doit avoir aucun lien avec l'entreprise. Or là, l'État, lui, se contrôle lui-même.
Tribunal administratif.
Ouais, il se contrôle avec des gens qui sont nommés par lui. Ou s'ils ne sont pas nommés par lui, ils sont nommés en cascade par quelqu'un d'autre. Et ce qui s'est dit dans les réunions du grand débat, s'est dit simplement une chose extrêmement logique qu'un enfant de 7 ans pourrait déduire, c'est que la seule façon d'être certain, en tout cas, que le contrôle ne soit pas orienté et soit objectif, c'est qu'il soit fait par des citoyens. Et donc par des conseils citoyens. S'il y a un type d'instance qui peut être, disons, intègre pour ce qui concerne l'étude, la vérification des comptes de l'État, c'est bien des instances citoyennes. Et ça, ils ne sont pas prêts du tout à l'accepter. Ils ne sont pas prêts du tout. Est-ce qu'il y a des comités? C'était la preuve. Bon, alors, Canol, vous vous auto-proclamez vérificateur de comptes, mais on ne retrouve pas dans la Constitution des dispositions qui disent qu'il va falloir que les comptes de l'État.
Ah ben attendez,
soit contrôlé par les commissions citoyennes.
Une fois, Canol a été débouté pour. Je sais plus, c'est le tribunal administratif ou. Non, mais pas pour l'affaire en particulier. Mais simplement parce que, ils ont dit, le montant n'est pas suffisant, le montant que vous réclamez, enfin, l'erreur n'est pas suffisante, vous n'êtes pas assez pénalisé.
Rien ne prouve que ça vous pénalise.
Rien ne prouve que ça vous pénalise. Je veux dire, là, on est dans des.
Parce que disons que.
Ils disent que c'est dépassé.
Et à un moment donné, on n'a pas pu aller parce que. C'est le tribunal administratif ou le préfet qui a dit qu'on n'était pas.
Le préfet,
qu'on n'était pas habilité à.
On n'est pas cité ou alors les gens sont pas assez lésés, enfin
pas alors si on n'est pas habilité, alors que c'est dans la Constitution, tout le monde est habilité à poser des questions les droits des citoyens.
C'est impressionnant.
Dans la Constitution, il faut aller dans. Vous devez vous en souvenir, il faut aller dans la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, c'est ça.
Qui dit que le citoyen a le droit de suivre.
Oui.
C'est le droit de suivi.
Ça nous a bien plu, ça.
C'est le droit de suivi. On va retrouver ici.
On a découvert ça.
Oui. Voilà.
On a le droit de constater, c'est la 14, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la.
Et d'en suivre l'emploi.
Ouais, c'est ça.
D'en suivre l'emploi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. D'en suivre l'emploi. C'est clair.
Ouais,
l'emploi. C'est-à-dire que le citoyen a le droit d'en suivre l'emploi. Alors, dans les réunions du grand débat, cet article a été pointé. On dit mais c'est écrit dans la Constitution que le citoyen a le droit. Donc on ne peut pas vous dire que vous soyez canon. N'importe quelle structure qui va se mettre dans l'idée d'aller vérifier les comptes de l'État, pas vous dire que vous n'êtes pas fondé à le faire.
Il y a l'article 4
qui vous donne le droit de le faire, on a le droit de vérifier.
Oui, mais le tribunal administratif allait contre ça.
Non, mais le tribunal administratif, ça se casse. Il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'un jour un tribunal a dit quelque chose qui ne peut pas être éventuellement cassé. Par exemple, on parlait tout à l'heure des potentats féodaux dans les petites villes de quelques milliers d'habitants. Ce ne serait pas la première fois que la maire de petite ville se retrouve au tribunal administratif, voire en correctionnel, parce qu'elle a pris tout simplement une disposition qui était contraire à la loi. Seulement, dans les petites villes, les gens, d'abord, il y a une espèce de soumission organique aux représentations d'autorité, c'est monsieur le maire, on ne se pas bouger. Et puis, ils ne sont pas non plus forcément au courant des détails de la loi. Et l'habitude aidant, les édiles prennent l'habitude de décider ce qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas d'opposition. Et puis, même si c'est contraire à la loi, tant que personne ne dit rien, c'est bon. Mais le jour où il y a quand même quelqu'un qui est un petit peu plus instruit, qui passe par là et qui dit « mais qu'est-ce qui se passe là ?» on peut très bien attaquer une mairie parce qu'elle a pris une disposition, soit une disposition opérationnelle, ou soit carrément un arrêté qui est contraire à une loi qui est au-dessus. Hein.
Parce que là, on a un problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plusieurs passations de marché avec la ville de Lyon pour achat de billets, achat de vaisselle, tout ça. Alors, c'est pour une période de 4 ans, mais l'enveloppe, c'est 1 milliard moins 1 euro.
999 999 999 euros.
Alors, c'est super.
Les marchés sont tous comme ça.
Les marchés à l'heure actuelle sont tous comme ça. Ils sont supérieurs au budget de la ville. Et il y a une journaliste qui a dit, oui, paraît-il, c'est légal. Alors, ça discute un peu parce qu'on veut lancer cette alerte-là. Alors, c'est quand même normal qu'on passe les marchés pour achat de vaisselle ou pour des places de rugby ou des places pour le Lions Club de location de glace sur 4 ans. La ville de Lyon, elle a passé le marché, elle a fait payer 1,5 milliard.
C'est des trucs d'années, ça.
C'est surréaliste, quoi. Et on se bat là parce que la façon de dire, il y en a qui disent qu'il faut foncer dans le tas, d'autres qui disent qu'on n'est pas guidé. Enfin, je crois que la prochaine réunion, ça va être discuté assez vivement.
Oui.
Mais c'est vrai, c'est anormal. Il faut qu'on regarde la loi. Il y en a un qui nous a envoyé la.
C'est le montant maximum du marché.
Oui, normalement, un marché, il y a un minima et un maximum. Il y a une enveloppe, quand il y a une enveloppe, il y a le minima, ça ne peut pas descendre en dessous, mais ça ne peut pas monter. C'est pas 1,5 milliard, cadeau de 1 euro à comparer. C'est négligeable. Mais c'est inquiétant parce qu'ils s'engagent à avoir des frais. Enfin, on se pose aussi après une question, c'est comme le musée de Confluence, hein. De 60 millions, il est passé à 250 millions. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y en a qui se sont servis, quoi.
Il y a beaucoup de problèmes.
Oui, mais bon.
Et on ne peut rien faire.
Comment ?
On ne peut rien faire.
La Constitution nous donne le droit de faire.
Le droit, mais on a. C'est bloqué, quoi.
Après, c'est une question de. Aussi, vous n'avez peut-être pas non plus les moyens. Soutenir des procès, il faut payer les avocats.
Ouais, bien sûr.
C'est ça.
C'est un peu David contre Goliath. Hein. Alors que il y aurait une structure citoyenne financée par l'État, chargée de contrôler, avec des moyens financiers pour à la fois faire des investigations, parce que les investigations, il faut savoir les faire, on a le temps de les faire. Voilà. Et puis ensuite, ester en justice, c'est aussi un vrai métier. Ça demande des fonds, si, parce que la justice n'est pas gratuite. Si on a de l'argent, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir dans un procès que si on n'en a pas. Hein,
voilà. Enfin, aussi, c'est pas l'égalité. Quoi. Ah.
C'est l'égalité.
Qui est au fronton des mérites.
Ouais,
ouais. Ouais, non, mais non, c'est intéressant. C'est...
Voilà. Bon, ben. Très bien, on n'est pas finalement très très loin de.
Oui, c'est
de, on n'est pas très loin de notre sujet. Oui. Donc la semaine dernière, on avait attaqué le titre 2, président de la République.
Oui, c'est ça.
On avait vu que
l'article
5 voulait pas dire grand chose dans la mesure où le président de la République veille au respect de la Constitution. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Oui. Qu'il est le garant, alors le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire,
oui,
de
ça,
et peut, ça on comprend, ouais. on comprend mieux. Ensuite, alors il y a une page entière sur les modalités techniques du président de la République. Autant, si vous voulez, il y a des concepts et normes qui ne sont pas définis. On dit que la France est un État démocratique. Social, hein, ça,
oui, ce jour, mais
on ne définit pas ce que c'est, on parle liberté, égalité, fraternité, on ne définit pas. Par contre, le président de la République, ça, alors il y a une page entière, l'article 7, qui décrit, qu'on va pas lire parce que ça n'a pas grand intérêt, qui décrit les conditions de nomination d'élection du président de la République, c'est l'article le plus long de la Constitution. C'est l'article le plus précis, il est extrêmement précis.
L'article 7, oui,
l'article 7, contrairement à beaucoup d'autres articles. Mais là, alors, tout est extrêmement précis. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages. On nous explique qu'il y a un deuxième tour, que c'est les deux meilleurs.
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Ouais.
Il s'est mis élu pour 5 ans au suffrage universel direct.
Oui.
C'est vrai que c'était en 1962 que c'était. Ça veut dire que ça a été toiletté, quoi, depuis la Constitution de 58. Parce que c'est en 62 que le président de la République a été élu au suffrage universel.
Oui, en 62, et la.
C'est pas en 58.
Ah oui, mais ça c'est le.
C'était
autre chose, quoi. C'est la dernière mouture.
Oui, c'est la dernière mouture.
La dernière mouture.
Ah, 5 ans aussi, quoi.
Oui.
Ouais, c'est, on est d'accord, non.
Oui,
c'est ça, d'accord.
C'est la dernière mouture.
Non, c'est juste une.
Voilà.
Ok.
Alors, il y a cette fameuse phrase là, les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Alors, la loi organique, qu'est-ce que c'est une loi organique? C'est une loi, alors c'est une loi, c'est-à-dire c'est pas un article constitutionnel. La différence qu'il y a entre un article de la Constitution et une loi, c'est qu'une loi, elle est pondue par l'Assemblée nationale, je dis qu'il y a la majorité de l'Assemblée nationale et que. Enfin, la majorité des présents peut être faite, défaite, amendée, etc. très très facilement. Alors que pour modifier la Constitution, hein, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui.
Donc c'est une loi organique. Une loi organique, c'est une loi qui ne s'adresse pas à vous et à moi. Hein. C'est une loi qui détermine des règles techniques de fonctionnement de l'État. C'est une loi organique. Mais c'est une loi parce que c'est l'Assemblée nationale qui la vote.
D'accord.
Donc, quand on dit les modalités d'application du présent article, vous voyez un petit peu, quoi, la différence qu'il va y avoir entre cet article 6 et l'article 7, c'est que l'article 6, il dit que les modalités de l'article 5, c'est-à-dire ces phrases, ces grandes phrases que le président de la République est garant de ces choses-là, les modalités d'application. Du présent article. C'est l'article 6. L'article 6 dit le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de mandats consécutifs. Les modalités d'application sont fixées par une loi, pas par la Constitution. C'est quand même un peu étrange. Hein. Bon. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel. Pas exercer plus de mandat, les modalités d'application, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est élu pour 5 ans, comment est-ce qu'il est élu, sont fixées par une loi.
Pourquoi on ne pourrait pas préciser à ce moment-là?
bon, c'est suffisamment important pour que ça soit dans la Constitution. D'autant plus qu'ensuite, l'article 7 nous explique par le détail. Mais alors, il faut que c'est les deux premiers. Ça peut d'ailleurs ne pas être les deux premiers, mais supposons qu'il y ait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Hein, c'est-à-dire que le 32, 1, il est 30%, par exemple. Le 2, 20%. Et le 3, 10%, mettons. Ah, les autres ont moins. Si le 2 se désiste, bon, ben, c'est le 1 et le 3. Oui. Bon, ça, on nous l'explique. Hein. C'est ça, vraiment dans le détail. Hein.
Allez, je vois les...
Alors, en cas de vacances, pour quelque cause que ce soit, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement, statue à la majorité.
Oui, c'est très détaillé. Ouais.
Voilà, il faut que le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue de ses membres. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12. Alors, article 11, c'est le fameux article sur le référendum d'initiative partagée. Et le 12, c'est.
C'était par Sarkozy.
Bon.
D'accord.
Oui. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau PR a lieu.
Sauf
cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, 20 jours au moins et 35 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Il n'y a pas un seul article de la Constitution qui soit aussi détaillé, mais qui rentre dans le détail, c'en est même mesquin, à quel point ça va dans le détail. Si dans les 7 jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidature, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Enfin, bon, ça entre vraiment dans le détail. et ça continue comme ça pendant toute une page.
J'ai prévu tous les cas.
Le Conseil constitutionnel. Alors, dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous, ou dans celles déterminées pour la présentation des candidats. Par la loi organique prévue à l'article 6, alors il faut se reporter à la loi organique dont on nous a parlé à l'article 6.
Oui, mais on dit pas ce que c'est.
Le deuxième alinéa de l'article 61, c'est. C'est aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs.
C'est sûr, ça. Les lois peuvent être déférées avant la promulgation.
Oui.
Ah oui, d'accord. Les lois sont votées, mais après, elles sont déférées. Oui.
Il ne peut être fait application des articles 49 et 50, ni de l'article 89. L'article 89, c'est l'article. Qui dit que le président de la République a le droit de réviser la Constitution, enfin, de déclencher un référendum pour la réviser, et les articles 49 et 50, disent... Ah, c'est relatif à la motion de censure.
D'accord.
Donc, lorsqu'il y a un empêchement, on ne peut pas faire de motion de censure. Bon. Vous voyez à quel point c'est détaillé que le moindre cas de figure est...
Ouais.
Ça veut dire que la Constitution... Bon, je veux dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que la Constitution, elle est vraiment centrée sur le président de la République. Il y a la chose la plus importante, la chose déterminante, c'est le président de la République. Et puis, le président de la République, la fonction du président de la République, c'est la seule fonction qui mérite... d'être détaillé dans tous les cas de figure. Et
pour les députés, il n'y a pas ça dans pour les élections
dans toutes les étapes, alors que pour tout le reste, pour ce qui concerne le peuple, la souveraineté, la façon d'exercer le pouvoir, ben ça reste très très vague. Alors,
on dit que le peuple est souverain parce que ça fait bien, mais ça s'arrête là.
Mais on ne définit pas la souveraineté.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà.
Alors que président de la République, c'est quand même très très précis. Hein. Alors, ça continue sur le président de la République, puisqu'on est dans le titre
8. Hein.
Le titre 2, président de la République, article 8, le président de la République donc, nomme le Premier ministre. Il le nomme et il le révoque, il met fin à ses fonctions, sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. C'est-à-dire que, alors, cette phrase, elle est vraiment incompréhensible. Enfin, bon, le président de la République nomme le Premier ministre, bon, c'est clair. Mais le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.
On n'a pas expliqué ce que c'était le gouvernement.
Non, mais bon, admettons qu'on aille l'expliquer après. Mais sur le mécanisme, est-ce que ça vous paraît clair de dire le PR met fin aux fonctions du PM sur la présentation par celui-ci, le PM, de la démission du gouvernement?
Ça veut dire que ça implique la démission du gouvernement.
Oui, mais voilà ce que ça veut dire. Quoi, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de...
Oui, il y a quelque chose dans la phrase.
Ça veut dire que le PM vient et puis dit mon gouvernement démissionne, donc le PM met fin à ses fonctions.
Moi, je ne suis plus rien.
Oui, mais
normalement, c'est le Premier ministre qui dit j'arrête, quoi. Puisque le gouvernement...
C'est le président qui
met fin à la fonction. Normalement,
c'est le président qui met fin à la fonction du Premier ministre.
Oui, mais donc...
lorsque le gouvernement donne sa démission.
Oui, mais... Ouais, d'accord. Oui. C'est ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que... C'est idiot, parce que dans le gouvernement, il y a le Premier ministre. Donc, s'il donne sa démission, le Premier ministre, il donne sa démission en même temps.
Oui, c'est sûr.
Mais qu'est-ce qu'on comprend quand on lit cette phrase? Est-ce qu'on comprend? Bon, le président de la République limoge le Premier ministre.
Oui.
Il peut le faire. Bon, il limoge le Premier ministre et donc il dissout le gouvernement.
Mais c'est arrivé qu'en Charlie il dissout le gouvernement.
Oui, mais pourquoi c'est pas écrit comme ça? C'est ce que vous voulez dire.
Ouais,
C'est écrit une loi de rien.
Moi, je ne comprends pas cette phrase.
Oui.
Parce que, bon, soit le président de la République change de Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui choisit, on va le voir, après, il choisit les ministres.
Oui.
Bon, donc, le Premier ministre, ensuite, effectivement, change son gouvernement, le nouveau Premier ministre.
Oui.
Il garde celui qui veut, il en met d'autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette formulation? Le PR met fin aux fonctions du PM sur la présentation par le PM de la démission du gouvernement. Enfin, cette phrase,
oui, non,
au niveau de la syntaxe, ne veut absolument rien dire.
C'est sûr.
Alors, sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Alors ça, vous comprenez quoi?
Ça veut dire que, oui, c'est pas très clair... D'un côté, il est nomme, mais aussi il peut leur mettre la fin de leur fonction.
Non, mais c'est toujours sur... Non, mais sur la proposition. Sur la proposition du Premier ministre, il met fin à leur fonction.
Donc, le Premier ministre dit Monsieur le Président, je vous propose à l'intérieur, monsieur Untel, je vous propose à l'un, le Président. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nommer sur proposition? Ça veut dire, est-ce qu'il a le droit de dire non, lui, je ne veux pas?
Non, c'est pas dit.
C'est pas clair. C'est pas clair. Bon. Et il met fin à leur fonction, c'est-à-dire que le PM va dire au PR, Monsieur le Président, lui, là, le ministre de la Santé, je ne veux plus, il faut le changer. Bon. C'est pas clair. C'est absolument pas clair. La phrase précédente, ni celle-là, on ne comprend pas. Alors, dans la réalité, on sait bien comment ça se passe, c'est le PR qui fait tout. Hein, il nomme le PM.
C'est
alors le PM, on vient, lui dit, tiens, on pourrait mettre machin. Ouais. Il dit, oui, tu me mettras machin. Bon, 6 mois après, lui, il faut qu'on le dégage, faut qu'on en mette un autre. Bon. Mais ces deux phrases, aussi bien celle-ci, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement, que celle-là, sur la proposition du Premier ministre qui nomme les autres membres du gouvernement et les femmes en fonction, c'est des phrases qui ne sont pas claires. Et qui permettent d'ailleurs, selon le cas, à un président qui a beaucoup d'autorité d'exercer comme un monarque, ou bien si on a un Premier ministre, alors par exemple
en cohabitation.
Cohabitation, voilà, on ne comprend pas bien qu'est-ce qui se passe en cohabitation. C'est-à-dire, le domaine, le principe de la cohabitation n'est pas indiqué dans la Constitution. Il n'a pas forcément à l'évoquer, la Constitution n'a pas forcément à évoquer le fait que l'Assemblée ne soit pas du même bord que le père. Je pense que ce n'est pas du niveau de la Constitution, du rôle de la Constitution de dire ça, mais après, justement, ces deux phrases sont des phrases qui ne permettent pas, dans le cas d'une cohabitation, de bien comprendre comment ça doit se passer. Alors, toujours, on est toujours au titre 2, le PR, le président de la République préside le Conseil des ministres. Bon, il préside, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire présider ? Toujours pareil, hein. On ne sait pas. Ouais. Par contre, alors vous voyez comment ça tranche par rapport à la page précédente, où on avait une description, par le menu, si un jour il est malade, il a une angine, le Conseil constitutionnel statuant la majorité va dire que, sauf l'article machin. Ah bon, c'est... alors qu'après, on a un article... Alors, vous avez un article 7 qui a 40 lignes, pour dire tous les cas de figure de l'élection de l'État. Et l'article 9, une ligne, une demi-ligne, le président de la République préside le Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mystère.
Oui, mais c'est vrai que c'est frappant.
Ah, mais c'est une. C'est pour ça que Chouard dit que c'est une anti-constitution, moi je dis que c'est une non-constitution. Alors, article 10. Le président de la République promulgue les lois. Bon, ça c'est clair. C'est une iniquité, mais c'est clair. Dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. On va parler de ça. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Un article est extrêmement important que tout le monde ignore complètement. Alors, il dit plusieurs choses, ces articles. Il dit plusieurs choses extrêmement intéressantes. Il dit que le président de la République promulgue les lois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire promulguer les lois ? Une loi qui est votée à l'Assemblée nationale, c'est un texte, avec dessous le nombre de votants tant, pour tant, contre tant, abstention tant.
Adopté.
La loi est adoptée. La loi est adoptée, mais tant qu'elle n'est pas promulguée,
elle n'est pas applicable.
Elle n'existe pas. Il faut donc que le président de la République promulgue les lois. Or, il faut savoir qu'il y a environ 30% des lois en France qui ne sont jamais appliquées. Là, on parle de la promulgation, mais il y a une chose qui n'est pas dite du tout, c'est qu'on ne trouvera d'ailleurs nulle part dans la Constitution, c'est les fameux décrets d'application. Parce que promulguer les lois, ça veut dire, en fait, faire des décrets d'application. Très souvent, une loi, elle est très générale, elle dit il faut aider les agriculteurs biologiques, par exemple. Une loi va dire ça. J'exagère, je caricature. Et puis, le décret d'application, alors là, il va faire comme pour Pierre, il va dire dans le cas du glyphosate, mais uniquement celui qui était fabriqué avant 1900, nous allons. Et ça, le décret d'application, c'est pas du tout l'Assemblée nationale qui le fait. C'est les technocrates du cabinet, du ministre.
C'est ce que la plupart des gens ne savent pas.
Donc c'est ça que ça veut dire promulguer. Mais non, ça veut dire promulguer. J'en crois qu'une loi elle passe à l'Assemblée nationale. Non, on a 30% des lois qui passent à la trappe parce que les décrets d'application ne sont jamais pris. Donc la loi n'ayant pas été, ils ont précisé par les décrets d'application. le père ne la promulgue pas.
Ouais, c'est ça.
Alors, le décret d'application, c'est pas la peine de chercher, vous allez trouver nulle part. Nulle part. C'est une pratique. Un peu comme les services publics.
Le décret d'application,
la notion de décret d'application, c'est vous la trouverez nulle part.
Ouais.
Bon, donc, avant de trouver nulle part, pour la bonne simple raison, tout simplement qu'elle n'est absolument pas indispensable. Que la plupart des juristes, même des juristes qui sont pas opposés au système représentatif, disent qu'une loi peut très bien sortir de l'Assemblée prête à l'emploi. Une loi prête à l'emploi. On n'a pas besoin de décret d'application. Il suffit qu'à l'Assemblée, on ait fait une loi suffisamment précise pour qu'elle soit applicable. Alors, toutes les lois sont retoquées par l'exécutif, ce qui veut bien dire que le pouvoir législatif n'existe pas.
Ça,
n'existe pas.
Ça, c'est important.
Voilà. Donc, le président. Alors là, ils ont un euphémisme. Le président de la République promulgue la loi. Ça veut dire, il ratifie les décrets d'application des lois qui ont été votées dans l'Assemblée nationale. Mmh.
Normalement, c'est dans les 15 jours.
Qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Ils disent pas en combien de temps la transmission va être.
Alors c'est-à-dire que l'Assemblée transmet la loi au gouvernement, qui la donne au PR et la PR la promulgue si les décrets d'application lui plaisent ou pas. Alors, il peut, et c'est pas tout, il peut, avant l'expiration de ce délai, demander, alors je ne sais pas s'il n'y a pas une loi organique, quelque part, qui dit que le délai peut être prorogé. Hein. Faut pas s'inquiéter pour les 15 jours. Hein. Je ne suis pas sûr de moi, mais voilà un point extrêmement, extrêmement précis et qui convient. Alors, il peut. Avant l'expiration de ce délai, demandez. Enfin, vous savez, 15 jours, c'est beaucoup parce que dans le domaine législatif, ils travaillent jour et nuit, les gars. Hein. Après, quand ils ont fini de travailler, ils se reposent. Quand ils travaillent, bon. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Vous vous rendez compte ?
Vous
rendez compte de la séparation des pouvoirs. Là, il y a une loi qui sort de l'Assemblée. L'Assemblée, a priori, c'est le peuple. Hein. C'est les représentants, c'est le peuple qui s'exprime.
Ouais, c'est
pas le peuple, hein, enfin, admettons. On va jouer le jeu.
Les représentants.
On va jouer le jeu aussi à un représentatif. On va dire, quand les 577 députés votent une loi, c'est comme si nous autres, 50 millions, on avait voté la loi. On va jouer le jeu. Et bien le PR, il regarde, qu'est-ce qu'ils ont voté l'autre nuit là Non, ça me plaît pas. Vous renvoyez la copie, exactement comme un prof qui renvoie sa copie. Il dit, fais voir le début de ta disserte là. Non, attends, là, tu balances ça, tu me revois parce que. Bon. Donc, messieurs, vous allez me refaire une nouvelle délibération, notamment concernant les articles 2, les articles 3, etc. Vous allez me réétudier ça parce que. Bon, sinon, pas de promulgation. Hein,
et dans la pratique, ça s'est fait, ou ça ?
Ah oui, mais sans arrêt.
Non, parce qu'on sait.
Sans arrêt, ça revient à l'Assemblée. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. L'Assemblée elle pourrait dire, bon, il pourrait y avoir, cette nouvelle délibération peut, on enlèverait le ne, peut être refusée. L'Assemblée pourrait dire, après tout, bon, on pourrait imaginer, pourquoi pas, que le PR dise, écoutez, vous êtes un peu gonflé, là, l'article de tout, là, vous ne pourriez pas un peu regarder, hein, c'est... Et l'Assemblée dit, écoutez, bon, je sais bien, on a bien tenu ce que vous avez dit, vous avez donné des arguments, mais on reste sur un truc, on ne redélibère pas. Ils sont obligés.
C'est le pouvoir exorbitant des exécutifs.
Oh, mais c'est alors, mais on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de pouvoir législatif. C'est-à-dire que l'exécutif, il a grosso modo 99% du pouvoir législatif.
Ouais, c'est ça.
Alors, bon, mais tous ces éléments vont s'ajouter pour arriver à cette conclusion. Pour l'instant, on voit que la conclusion commence à se dessiner, commence à s'amorcer. N'oublions pas que l'article 10, cette fois, mais de la DDHC, dit que un pays dans lequel la constitution n'établit pas la séparation des pouvoirs est réputé ne pas avoir de constitution. Alors maintenant, article 11, le fameux article 11. Il y a deux articles dans la constitution qui permettent de modifier la constitution, qui permettent de la réviser. C'est l'article 89 et l'article 11. L'article 11 a été modifié plusieurs fois. Ça, c'est sa dernière mouture. C'est la dernière mouture d'ailleurs qui. Il y a une petite erreur, il y a des paragraphes qui sont répétés. Il y a deux fois article 11. Il y a une petite erreur dans ce truc. C'est le. Bon, il faut. Disons qu'il faut. Vous voyez, vous avez article 11. Oui, je ne sais pas si vous avez le même. Ouais, puis ensuite, vous avez article 11.
C'est ça.
Voilà, bon, là, le premier. C'est pas la peine de
parler,
voilà.
Pour prendre le deuxième parti.
Voilà, faut prendre le deuxième parti. Il y a eu 9 référendums sous la 5e République. 9 ou 11. De Gaulle en a fait 5. Pompidou en a fait 1. Giscard en a fait un.
Je sais pas s'il en a fait Giscard.
Mitterrand en a fait un. Enfin, j'ai plus chiffre en tête. Mais la.
Le dernier, c'est Sarkozy.
Suite 2005.
Oui.
Le Sarkozy a fait sur l'Europe.
Sur l'Europe.
Oui, c'est
le fameux.
Il est commencé à en côté non et lui, il a continué. Oui.
Voilà. Donc il y a Pompidou. 1. De Gaulle 5. Pompidou 1. Sarkozy 1. Chirac au moins 1, puisqu'il a, c'est lui qui a ramené à 5 ans.
Mmh. Mais il y a eu un référendum pendant 5 ans ?
Oui.
Je me souviens plus.
Mmh. Oui. Mmh. Bon. 9, disons.
Oui.
La plupart ont été faits à partir de l'article 11, notamment ceux de De Gaulle. Mais l'article 11 du temps de De Gaulle n'était pas comme il est maintenant, c'est-à-dire référendum d'initiative partagée. C'était une autre façon pour le président de modifier.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est peut-être pas utile de faire l'historique de l'article 11, si c'était que. Savoir que avant sa modification, je ne sais plus exactement en quelle année, il permettait de modifier la Constitution, mais c'était toujours uniquement soit le président, soit l'Assemblée qui pouvait le déclencher. Alors aujourd'hui, il se présente comme ça, effectivement. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publié au JO, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation du pouvoir public, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale ou environnementale de la nation, et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Donc ça, c'est un charabia. Un charabia, c'est censé dire que c'est un référendum qui ne veut pas tout faire. Ah oui, sinon, le référendum. Sinon, il n'y aurait pas lieu d'écrire toutes ces lignes. Il suffirait de dire que le président de la République, alors sur proposition du gouvernement, peut soumettre tout projet de loi à référendum. Mmh. Bon, mais là, non, c'est des projets. Alors.
La politique économique sociale.
Portant sur l'organisation du pouvoir public. Vous comprenez ce que ça veut dire? Sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation.
C'est toute la politique.
C'est toute la politique.
C'est l'ensemble.
Au service public, qu'est-ce que c'est les services publics? On sait bien qu'on ne sait pas ce que c'est, le service public. C'est défini nulle part. les traités, bon, ça, les traités, et puis alors, la formulation, un référendum pour autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait une incidence sur le fonctionnement des institutions. C'est innommable. C'est une honte, enfin, une rédaction comme ça, c'est une véritable honte.
Il dit pas que c'est une modification.
Parce que, non mais, bon, ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, encore heureux qu'ils soient contraires à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Parce qu'un traité international qui n'aurait pas d'incidence sur le fonctionnement des institutions...
C'est le cas bon, du dernier référendum avec Sarkozy, c'était sur le traité de Lisbonne.
Ah bah oui, mais c'était... Oui, oui.
Donc c'était...
Non mais là, il avait pris l'article 89, lui. Hein.
Sans être contraire à la Constitution.
Oui.
Mais il n'y avait pas d'incidence sur le fonctionnement des institutions.
Ah mais si, si. Si. Bah, si. Vous vous soumettez, vous soumettez à Lisbonne. Bon. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que, et ça, tous les analystes, tous les juristes se sont d'accord, avec ce listing de domaines possibles, on peut tout mettre. La preuve, c'est que De Gaulle, ici, il a pris l'article 11, bon, pour tous ces référendums, il a pris l'article 11. Alors, lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. Bon, donc le référendum peut être organisé sur proposition du gouvernement, ça ne s'est jamais vu. Jamais vu. J'avais vu un Premier ministre dire au PR, Monsieur le Président, je voudrais organiser un référendum. Moi et mon gouvernement, on va organiser un référendum. Bon, c'est génial. Mais c'est écrit. Alors, un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa, c'est-à-dire cette fameuse énumération dans laquelle il y a grosso modo tout. Toute l'action du pouvoir de l'État. Donc, un référendum sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé, c'est là que ça commence à devenir intéressant, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Bon. D'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le RIP, le référendum d'initiative partagée. Mais, attention, le RIP, il faut... La proposition vient des élus. D'accord. On dit le RIP, c'est les citoyens plus les élus. Oui, mais que...
Oui, non, l'article 11.
L'initiative ne peut pas obliger les élus.
Mais non, mais c'est pas là, c'est faut, celui-là, il faut le barrer et compter deux fois. Elle est là.
Oui. La première formulation de l'article 11.
Ça.
Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un cinquième du Parlement, c'est-à-dire 577 députés de l'Assemblée nationale plus 315 ou 145 du Sénat, c'est-à-dire environ 185 parlementaires, qui aient une initiative. Il faut que cette initiative soit soutenue, il faut, grosso modo, 5 millions de signatures.
Oui, c'est ça que j'ai entendu, 4 millions de signatures, c'est ça.
Voilà, 4 millions de signatures. Mais l'initiative ne peut pas venir des 4 millions de signatures. C'est-à-dire qu'il faut, il ne peut pas y avoir 4 millions de signatures qui proposent quelque chose, et après qui vont chercher... 185 députés, ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord 185 députés qui doivent
soutenir.
Qui doivent dire voilà, on voudrait tel type de référendum.
Ah oui, d'accord. Ça commence par les députés.
L'initiative vient des députés.
Ouais, c'est ça. Enfin.
Alors, ce qui est dans les tuyaux, mais quand je dis est dans les tuyaux, on est en train, alors notamment avec. Dans le cadre de l'Assemblée citoyenne locale de Couches, d'étudier la dernière déclaration du PR suite à la restitution du grand débat.
Ouais, c'est vrai.
Et il a dit, je souhaiterais que, je voudrais faire, parce qu'il dit toujours je ne veux pas, je suis contre le vote blanc, je ne veux pas du RIC, mais il a dit, par contre, je voudrais améliorer l'article 11 en, il a dit deux choses, et je me demande d'ailleurs si c'est bien relu, hein, parce que, bon. Il a dit, je souhaiterais que l'initiative vienne, puisse venir des citoyens, et que ça soit limité, et que ça soit descendu à 1 million. Ouais, c'est-à-dire qu'on aurait, si on a 1 million de signatures,
ouais, ça je me rappelle,
si on a 1 million de signatures, on dit voilà, on va faire un référendum là-dessus, et après on va chercher 185 parlementaires pour qu'ils soient d'accord.
Ah, c'est d'abord les citoyens, les 1 million de citoyens.
Ça peut venir soit des parlementaires.
Ouais, c'est ça.
Soit des citoyens.
Ouais, c'est vrai. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit. Mais...
Alors.
On rappelle le 1 million, quoi.
Comment ?
Je me rappelle, c'était 1 million, mais 4 millions et demi, quoi.
Ouais.
C'est ça, c'est ça. Ouais.
Il y a deux choses. Ouais. Il y a l'abaissement de 4 millions et demi à 1 million. Et il y a le fait que l'initiative peut venir du 1 million.
Ouais, c'est ça. Ouais,
ça ne veut pas dire qu'elle ne peut venir que du 1 million. Mais elle peut venir du 1 million. Alors, ça c'est intéressant parce qu'il faut voir si ça va réellement se faire. Bon, pour le coup, il ne peut pas le faire tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il dit je fais, mais ça il ne peut pas le faire tout seul.
Non, c'est une efficacité.
Ben, alors, lorsqu'il dit je ne veux pas le RIC ou je ne veux pas le vote blanc, bon, il peut le faire, il suffit qu'il ne fasse pas. Il suffit qu'il ne demande pas à modifier la Constitution. Mmh. Mais là, s'il dit je veux modifier l'article 11, il ne peut pas le modifier tout seul. Mmh. Il va falloir qu'il fasse un référendum.
Ou qu'il convoque les assemblées en congrès.
Ou qu'il convoque, ouais, dans le cadre de l'article 89, ouais, l'assemblée en congrès pour modifier l'article 11.
Ouais,
Puisque l'article 11, c'est obligatoirement référendum, avec l'article 89, c'est une modification qui peut être faite par les assemblées,
ouais,
ou par référendum.
D'accord. Je ne me rappelle pas quand ça...
Bon, donc ça, c'est vraiment affaire à suivre.
Ça n'avait pas déchaîné les débats, là, au moment où Sarkozy a sorti ça, a modifié la Constitution. Moi, je ne me rappelle pas avoir entendu beaucoup parler de ça. Vous avez peut-être...
Non, moyennement, mais ça... Ça paraît tellement inaccessible,
ouais, c'est ça.
Bon, que l'initiative que nous, citoyens, voudrait, elle soit prise par des parlementaires. Une initiative, par exemple, qui est forcément contraire aux intérêts des parlementaires, ouais, que ce soit eux qui aient l'idée.
Ouais, c'est vrai,
et ensuite, trouver 5 millions de signatures, bon, ça paraît tellement inaccessible,
ouais,
que bien. Ça n'a jamais été utilisé.
Ouais, c'est ça.
Non, ou alors il faudrait avoir une stratégie qui vient de loin, c'est-à-dire dire nous allons présenter des candidats de la démocratie directe, par exemple, aux élections législatives, afin qu'on ait suffisamment de députés qui ne veulent pas de députés, mais ils le seront, rien que pour pouvoir activer l'article 11 et modifier la Constitution pour faire entrer le pouvoir citoyen dans la Constitution.
En fait, c'est vis-à-vis de l'opposition, en disant l'opposition peut faire ça. Parce que quand on met 1/5 des membres du Parlement, ça veut dire que c'est pas la majorité. Si on regarde les choses.
Oui, mais là, je ne sais pas si on est dans une question d'opposition, parce que la modification de la Constitution, elle n'est pas tellement politique. C'est surtout la démocratie qui est en jeu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on prend les décisions.
Le fonctionnement.
Fonctionnement. Alors, si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans le délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum.
Ça veut dire que... Oui, c'est ça. Le gouvernement propose une loi et l'assemblée ne la vote pas, ne l'examine pas. Ça, c'est pour lui, ça. C'est pour lui, ça. Le gouvernement proposait une loi et l'Assemblée ne votait pas. Que c'est quoi ?
Refus de l'examiner.
La loi organique, elle est fixée par la
Convention. Non, dans un délai.
Si, c'est dans 1508, dans un délai fixé par la loi.
Oui, oui, d'accord. Faut savoir ce qu'il y a le délai.
Mais le délai.
Oui, bien sûr. Oui, ça veut dire que les assemblées ne le font pas pendant le délai qui est imparti. Oui, c'est un peu. Ça veut dire que c'est un refus de.
Je comprends pas ce paragraphe-là.
Je suppose que les assemblées.
S'il n'y a pas une erreur, parce que qu'est-ce que ça vient faire ça, l'examiner par les deux assemblées ? On parle de référendum. Je comprends pas cette phrase. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans le délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum.
Ça veut dire
on ne parle pas du tout de ça au début. On parle que de référendum.
Ça veut dire que c'est encore une autre raison.
C'est-à-dire que c'est une autre. Ça devrait être au début de l'article 11, quoi, c'est une loi qui devrait être. On fait un référendum dans le cas où les deux assemblées n'ont pas examiné une loi dans un délai fixé. Quoi.
Oui, c'est une condition du référendum.
C'est une condition du référendum.
Mais comme il a dit
avant. Je ne sais pas s'il n'y a pas une un méli-mélo entre les deux. Parce qu'à priori, l'article 11 ne concerne que le référendum. Hein. Là, on parle de proposition de loi qui est examinée par les deux assemblées. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant l'Assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. Bon, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une petite erreur dans. Je sais pas s'il n'y a pas un ancien article 11 qui est venu se mélanger avec le nouveau. Là. Il doit y avoir un petit problème dans ce.
Oui, c'est un peu.
Dans cette version. Hein. Bon. Alors, ensuite, lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, hein, donc le référendum, aucune proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 2 ans. Bon, d'accord. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
C'est la proclamation, il n'y a
rien
du décret.
Oui. C'est ce que vous avez
oui, dit. Alors là c'est pareil, hein, c'est pareil. Le référendum, la loi, une loi de référendum est retoquée par le président avant d'être promulguée définitivement. On lui met les décrets d'application.
C'est pas forcément retoqué, mais il dit promulgue la loi.
Il promulgue la loi, oui, mais promulguer, ça veut dire qu'il y met les décrets d'application.
D'accord,
oui,
un peu.
Il peut la changer, quoi.
Elle a changé. Mais, disons que, vu comme c'est rédigé, les lois, vous voyez bien, il suffit de changer un adjectif pour lui donner un sens sensiblement différent. Ouais. Pas forcément le contraire, mais c'est
ce que a fait Sarkozy.
Ah ben non, Sarkozy, c'est autre chose. Hein. Sarkozy, il y a eu le référendum de 2005 qui a donné
non,
majorité du non. Mais attendez, c'est pas Sarkozy, hein, c'est Chirac. Hein. C'est Chirac, hein, le référendum de 2005.
C'est Chirac, oui.
C'est Chirac. Le référendum de 2005, c'est Chirac.
Sarkozy, c'est 2007-2012.
Sarkozy n'a pas fait de référendum, hein. C'est le dernier référendum, c'est le 2 depuis 2005, qui a donné 56% de non. Et Chirac est resté, il a changé de Premier ministre, il a mis le Raffarin, c'est tout.
Ah oui, alors
c'est,
il a pris le Premier ministre, il a dû prendre Sarkozy.
Oui.
C'est pour ça qu'on dit que c'est Sarkozy.
Oui.
Il n'était pas président, il était Premier ministre.
Alors, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et de ses présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, là, on est passé à l'article 12.
Oui.
C'est donc le pouvoir du père de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors vous vous souvenez de la...
Il n'est pas dans quelles circonstances.
Il n'a pas à se justifier.
Ouais, c'est ça.
Alors vous vous souvenez, la dernière dissolution de l'Assemblée nationale. Alors il n'a pas eu tant que ça. Il y a eu le gag de Chirac.
Avec Villepin, qui lui avait proposé de dissoudre.
Alors, donc Chirac est élu en. Voyons voir.
98.
Mais non, parce qu'à faire 18, 98 Coupe du Monde, c'est Chirac. Chirac, il est déjà Chirac. Hein.
Donc oui, il a été
élu en 96, quelque chose comme ça.
Bon.
Il nomme Juppé Premier ministre. Il nomme Juppé Premier ministre.
Pas tout de suite.
Ah oui, c'est ça.
Et puis.
Non, pas tout de suite. Non.
Pas tout de suite.
Chirac n'a pas nommé Juppé.
Ah ben, quand Chirac a été élu.
Ah si, parce que l'Assemblée était à gauche, je crois.
Non. Lorsque Chirac est élu pour la première fois.
Qu'est-ce qu'il y a eu
Vous avez dit Juppé ?
Juppé.
Ah oui, non, c'est moi qui le prends.
Juppé.
Ah, Juppé, oui, je comprends.
Juppé, voilà. Donc, lorsque Chirac est élu en 96, 97, 97, un truc comme ça. Bon.
Là, je confonds avec Jospin.
97, admettons. Mm-hmm. Bon.
Juppé.
Il est élu, il a une majorité confortable à l'Assemblée nationale.
Et dissous.
Et non. Et il nomme Juppé.
Oui, d'accord.
Mais les mandats sont de 7 ans.
Oui.
Voilà. Et il se dit, dans deux ans, va falloir refaire les. Dans cinq ans. Dans 5 ans, bon, il est élu pour 7 ans, il se dit dans 5 ans, il va falloir refaire. Et là, je vais être à ma cinquième année de mandat, je vais certainement me prendre une assemblée. Bon. Je vais profiter de que je suis encore très populaire pour dissoudre l'assemblée à ma deuxième année.
Oui, c'est ça.
Parce que comme ça, à ma deuxième année. Et c'est Villepin effectivement qui lui souffle.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est Juppé, Villepin est ministre des Affaires étrangères, mmh. et c'est Juppé qui est Premier ministre.
Mmh.
Et non, là, vous êtes à plus 2, vous avez fait 2 ans, il vous reste 5 ans à faire. On dissout. Bon, vous êtes encore très populaire, on va avoir la majorité. C'est bon, on est tranquille, on fait 5 ans. Et c'est là que Jospin arrive. Donc cohabitation, donc Chirac fait 2 ans avec Juppé, il fait 5 ans avec Jospin, et après, bon, il repique pour. Alors c'est là que c'est pendant la mandature de Jospin qui fait le référendum pour passer
5 ans.
À 5 ans. Et puis, après arrive Le Pen, donc il repasse avec 85% des voix.
Oui,
mais, alors, ça, c'est la dernière dissolution de l'Assemblée nationale qu'il y a eu. Bon. Il n'y en a pas eu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme dissolution de l'Assemblée nationale ? Ah, ben, il y a une célèbre, c'est.
Pourquoi pas la dissoudre ? Enfin, non, il n'y en a pas eu, mais après, ils ont. Parce que l'Assemblée nationale, on ne votait pas en même temps que le président de la République, c'était 2 ou 3 ans après, ça se chevauchait sur. Et quand il y a eu ça, ils ont dit ben non, il faut que une majorité, pour qu'il n'y ait pas de cohabitation, on vote à l'Assemblée générale dans l'Assemblée de la présidence de la République, 2 ou 3 mois après, comme ça on est sûr d'avoir la majorité, on va jusqu'au bout.
Ouais. Ah ben, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, c'est. Précisément Chirac qui a fait l'expérience,
mauvaise
expérience de ça, et qui là-dessus, pendant la cohabitation avec Jospin, a fait le référendum pour passer à 5 ans.
Oui, c'est ça.
Avec les modifications des élections des députés.
De l'État,
et inverser le.
Ouais, c'est ça.
Enfin, passer
passer, d'abord l'élection du président de la République.
Passer la mandature de 7 ans à 5 ans, et puis faire d'abord l'élection présidentielle.
Ouais,
voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre dissolution de l'Assemblée nationale célèbre? Celle de De Gaulle en 68.
Ah oui.
Après les événements de mai
68.
Après, oui. Exactement. Après les événements de mai 68.
Ah, d'accord. Oui, exactement. Il a eu beaucoup plus de
Il y a eu. Tout le monde a eu peur, la France en grève, la CGT au pouvoir, la manifestation
organisée.
Je vais voir Massu, madame, je reviens, je dissous l'Assemblée nationale et ras-le-marée. Et après, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que Mitterrand a dissous l'Assemblée nationale? Je ne sais pas si Mitterrand ne l'a pas dissous une fois. Bon, en tout cas, il y a ces.
Oui, en 68.
Il n'y en a pas. C'est pas. C'est assez dangereux, hein. Assez dangereux. Alors, ça, le référendum. Alors, le dernier référendum, il date de 2005. Alors, ça fait quand même une peine, maintenant.
Ouais, hein,
15 ans.
Ouais.
Et puis, la dernière dissolution, elle doit dater de. Ouais. Ouais, 98,
99.
Alors, les élections ont lieu 20 jours ou moins, 40 jours après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 12e jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les élections. Bon.
D'accord.
Alors, article 13. Le PR signe les ordonnances et les décrets délibérés au Conseil des ministres. Oui, si. Oui.
Les ordonnances.
C'est là qu'on parle des décrets.
Les ordonnances, ils n'ont pas défini ce que c'était.
Non. Donc, on ne va pas avoir de définition. C'est comme décret, là, vous voyez, on ne dit pas ce que c'est, un décret. Hein. Alors, c'est tout simplement des actes législatifs. Puisque. Qu'est-ce que c'est qu'un acte législatif? C'est une règle coercitive, c'est une règle qui établit soit une interdiction, soit une obligation. Voilà, alors qu'elle s'appelle loi, directive, décret, arrêté, règlement, ordonnance.
Les ordonnances, c'est important.
Oui, c'est des règles coercitives, donc c'est des lois.
Et c'est voté d'une autre manière. Ça ne suit pas le système.
Alors, on dit que les. Le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale, c'est les lois.
Oui,
hein? Et tout le reste, ça s'appelle décret, arrêté, règlement. Bon, ça ne s'appelle pas loi, mais c'est des règles coercitives. Ça fait partie du législatif.
Si les ordonnances, c'est un peu aussi un détournement de la loi traditionnelle.
C'est une façon pour l'exécutif d'édicter des règles coercitives.
Oui, c'est ça.
Alors, il nomme aux emplois civils et militaires de l'État, les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs à envoyer extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État, etc., etc., directeurs d'académie, d'accord. Oui, comme c'est très précis, hein. Très très précis tout ça.
Ah,
c'est beaucoup plus précis que la définition de la liberté ou de l'égalité.
Les conseillers sont mis en place par l'État.
Alors une loi organique, là revoilà la loi organique, c'est-à-dire qu'une loi organique, on peut la faire, la défaire, une nuit à l'Assemblée Générale, on peut la retoquer, détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du PR peut être par lui délégué ou exercé en son nom. Voilà. Donc l'Assemblée nationale elle peut pondre une loi où on dit que maintenant le PR peut nommer puisqu'il peut nommer les recteurs d'académie, les directeurs des administrations, il peut nommer aussi les conducteurs de travaux, les entreprises de BTP qui ont obtenu des adjudications de collectivité territoriale pour dire que le PR peut nommer des conducteurs de travaux, pourquoi pas. Hein. Il suffit d'une loi organique qui décide. Une loi organique, ensuite, détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, c'est-à-dire n'importe quel emploi, pour lesquels, en raison de leur importance, pour les garanties des droits et libertés ou la vie économique, sociale d'une nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
Voilà. Garantie des droits et des libertés, c'est un peu curieux.
Voilà, il peut créer des emplois, des fonctions.
C'est pour ça qu'on a beaucoup de fonctionnaires.
Non, il y en avait
voilà, déjà. Il peut créer un attaché à ceci, un attaché à cela, un attaché juridique, un attaché culturel, un attaché social, économique. Le PR ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Alors, là, on dit qu'il ne veut pas.
On dit qu'il ne veut pas, oui. Vous connaissez le principe des commissions. On a l'Assemblée nationale.
Oui.
Et puis, il y a des commissions. Oui. La commission des lois, commission
des finances,
commission des finances,
la défense.
Commission de la défense. Comment ?
Qui est-ce qui est là ?
Des députés.
Députés, hein ?
Les députés qui sont dans la commission.
Oui, c'est juste ça.
Qui sont.
Normalement, c'est important, c'est eux qui fabriquent le projet. Enfin, qui le mettent au point, quoi. Pas parce que j'ai compris.
Oui. Oui. La loi détermine les commissions permanentes de compétences selon les emplois ou fonctions concernées. Donc, c'est toute la cuisine interne de l'Assemblée nationale qui se découpe, qui se répartit en différentes commissions.
Oui, c'est ça.
Commission permanente.
C'est bizarre, hein, il ne peut pas procéder à une nomination. Comment ça marche dans la pratique, ça, je comprends pas. Parce que l'addition des votes négatifs représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein de deux commissions. On parle que des commissions là.
Oui, lorsqu'il y a 3/5.
On parle pas de l'Assemblée nationale. Je ne savais pas que le président de la République s'immisçait dans l'affaire. C'est dans les commissions, enfin.
Non, c'est pas qu'il s'immisce, c'est qu'il y a certaines nominations qui doivent être faites par les commissions. Vous voyez, une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés. Pour nommer les directeurs d'académie, les directeurs d'administration centrale, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer, les conseillers à la Cour des comptes, il n'a besoin de personne. Bon, par contre, on peut créer une loi organique, c'est-à-dire, donc c'est l'Assemblée nationale qui l'a créée, peut créer des emplois et des fonctions. Hein, par exemple, le régulateur de ceci. L'attaché culturel auprès de telle ou telle administration, autre que ceux mentionnés au troisième alinéa. Voilà, c'est-à-dire tout hein, les directeurs d'académie, etc. Pour lesquels, alors, la loi organique va créer des emplois en raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou de la vie économique et sociale de la nation. C'est-à-dire, c'est les droits, la liberté et la vie économique et sociale de la nation, c'est tout. C'est tout.
Oui, bon,
c'est-à-dire qu'on peut créer n'importe quelle fonction.
Oui.
Alors là, le pouvoir de nomination du PR s'exerce après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Alors, si par exemple. Il y a une loi organique, donc ça va, ça émane de l'Assemblée quand même, qui dit qu'il faudrait qu'on crée, par exemple, comme ça vient de se faire, un haut commissariat pour le climat.
Oui.
Hein, et puis qu'on nomme le président de ce haut commissariat pour le climat. Hein, ça va être M. Hulot, ou M. Jean Covici, M. Alain Grandjean, ou M. Arthur Bertrand, etc. Bien. L'EPR ne peut nommer s'il n'y a pas 3/5 des votes négatifs dans la commission concernée, c'est-à-dire la commission écologie par exemple, ou la commission énergie, Hein, s'il n'y a pas plus de 3/5 de votes négatifs, s'il y a 3/5 de votes qui ne sont pas d'accord avec la nomination d'Arthus Bertrand, par exemple, en tant que président de la commission pour le climat, il ne veut pas le nommer. On rentre dans la cuisine quand même.
Oui, c'est assez.
Hein, c'est pas aussi précis pour essayer de savoir ce que c'est que l'égalité des chances entre tous les citoyens, l'égalité des patries. Voilà, c'est pas aussi précis. Hein.
Et la transparence.
Et la transparence pour le sujet qui vous. Sujet par rapport auquel vous êtes spécialiste. Voilà. Article 14. Le président, le PR, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Bon, ça c'est la prérogative ancestrale du chef de l'État sur la diplomatie.
Oui, c'est ça.
Article 15, il est le chef des armées et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Bon. Tout ça, c'est très précis. Hein. C'est très précis. Article 16. Ah, le fameux article 16. Lorsque les pouvoirs exceptionnels. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, ça fait beaucoup, hein. Le président de la République prend les mesures exigées par cette circonstance après consultation officielle du Premier ministre, il consulte le PM, il consulte les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Et il informe la nation par message. Ça, il informe la nation par message, encore heureux qu'il l'informe. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres détails,
dans les moindres délais,
oui, c'est-à-dire qu'il faut faire vite. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer par... il faut se lever le matin et décider dans la matinée. Les moyens d'accomplir leur mission, le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Il consulte un peu le Conseil constitutionnel.
Deux fois, non pas.
Bon, donc ça c'est l'article 16. Le Parlement se réunit de plein droit.
On ne dit pas ce qu'il fait.
Comment ?
On ne dit pas ce qu'il fait. Non, le Parlement.
Je vois pas ce que vient faire cette phrase.
Non, mais on ne dit pas surtout pourquoi il se réunit.
Ah, il se réunit. C'est-à-dire que lorsque. Oui, parce que le Parlement, c'est l'association de l'Assemblée et du Sénat.
Oui.
Ça ne se réunit pas toutes les 5 minutes au Parlement, il y a une session parlementaire par an, c'est tout. Or, lorsque l'EPR active l'article 16, le Parlement se réunit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Encore heureux. Bon. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le PR, le président du Sénat, plus 60 députés
ou 60
sénateurs, afin d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Est-ce qu'il peut continuer ?
C'est pas une dictature qui s'installe.
Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de la durée. Alors là, bon, ça veut dire que il peut y avoir des pouvoirs dictatoriaux temporaires. Oui, mais temporaire. À tout moment au-delà de cette durée. Ça veut dire que 30 jours. Ça peut être prolongé de 60 jours, et après on se réunit, on fait des plans entre copains, parce que on est le Conseil constitutionnel, bon ça c'est tous les anciens, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, bon, 60 députés, on va toujours trouver 60 députés qui sont... Bon. Et on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord pour... avec moi pour dire que les conditions elles sont toujours là et que donc il faut que je continue à être dictateur.
C'est pas le cas du plan Vigipirate.
Non.
Il est arrêté ou pas?
Non, le plan. Le, 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 Non, les corps vigipérales, c'est des pouvoirs exceptionnels de la police, voilà, hein, certaines restrictions des libertés individuelles. Là, c'est dictature du PR. C'est-à-dire qu'il fait absolument ce qu'il veut, il décide de n'importe quel texte législatif, c'est-à-dire qu'il indique une règle abstraite, ou il énonce un commandement opérationnel de son propre chef. C'est des pouvoirs exceptionnels, des pouvoirs dictatoriaux, qui ne sont pas limités à 30 jours, qui peuvent être conduits 60, et au terme de 60 jours, et à tout moment, au-delà de cette durée, au-delà de 60 jours. Si tous les copains sont d'accord pour que ça continue.
Ouais, c'est ça.
Alors, de mémoire, ça a été activé une seule fois par De Gaulle.
Oui, De Gaulle.
Je pense pendant les événements d'Algérie, Touche, etc.
Oui.
Voilà. Et c'est un article qui fait quand même polémique, même au sein des élateurs patentés de la démocratie représentative et de cette constitution, et qui se prononce pour la suppression pure et simple.
Oui, moi je croyais qu'il a été supprimé.
Non. Alors, il n'a pas été supprimé, mais il y a une espèce. Alors, on vous explique. Hein, enfin, les juristes, les profs de droit constitutionnel, pas les profs, mais ceux qui sont dans les cabinets, les droits constitutionnels, vous expliquent que c'est un article qu'on n'applique plus. Je vous explique que c'est un article qu'on n'applique plus.
Bon. Oui, je croyais qu'il avait été supprimé.
Il est toujours là. C'est un article.
On en a beaucoup parlé avant.
Carrément. Peut être utilisé si on a une bonne majorité pour établir une dictature. C'est un article qui n'a pas sa place dans une constitution, on ne va pas dire démocratique parce qu'elle n'est pas démocratique, elle est oligocratique, mais qui n'a même pas sa place dans une constitution oligocratique. L'oligocratique, ça veut dire oligoscratein, c'est le gouvernement par
quelques-uns.
Ouais. Bon, ben là, c'est même pas. Là, on retourne à la monocratie.
Oui,
bien, voilà pour l'article 16. C'est un article dont il faut quand même parler. Il faut pas de temps en temps, il faut dire qu'il existe et que quand est-ce qu'on va faire un référendum pour le supprimer, par exemple, pour l'enlever une bonne fois pour toutes de cette constitution, parce que c'est vraiment une épine dans pied. Article 17. Le PR a le droit de faire grâce à titre individuel. Bon. Alors, ça c'est très clair. Très clair. Cet article aussi est extrêmement contesté. Hein. Parce que.
C'est roi royal, ça.
Ah oui. Bon, pourquoi est-ce que le père a le droit de grâce?
C'est exorbitant.
Pourquoi est-ce qu'il a le droit? Pourquoi pas l'Assemblée nationale? Ou pourquoi pas un conseil citoyen, tiens? Qui se réunit sur des cas judiciaires. C'est un droit exorbitant de nature régalienne et pas de nature en tout cas républicaine. Là, tous les syndicats de la magistrature sont d'accord pour supprimer cet article. Ça en fait, du coup, ça en fait deux d'un coup, le 16 et le 17. Là, Article 18. EPR communique avec les deux assemblées, du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat.
C'est un peu curieux, monsieur Doucoup, parce que normalement c'est au Premier ministre de défendre son projet. C'est pas au président de la République de l'Assemblée. Projet de loi, par exemple.
Oui. Attendez, on ne parle pas de projet de loi là. On dit le père communique avec les deux assemblées par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Ils disent pas dans quel cas.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire, à votre avis, ça veut dire quoi cette phrase?
Ils disent pas dans quel cas il fait passer des messages. Pourquoi il les fait passer? communique avec les deux assemblées. Je pense que...
Alors, en fait, ce que ça veut dire, et ce serait plus clair si c'était formulé ainsi, ça veut dire que le président de la République ne peut communiquer avec les assemblées que par des messages qu'il fait lire. Et ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ça veut dire que le président de la République n'a pas le droit d'entrer sur l'Assemblée. Il n'a pas le droit.
Ouais.
Alors, c'est ça ce qu'ils appellent la séparation des pouvoirs. Ils vont vous dire, mais regardez l'article 18. Le président de la République n'a pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale.
Ouais.
Il ne peut que communiquer
c'est vrai que...
un message et qui ne donne pas lieu à un débat. C'est-à-dire, il peut dire, messieurs, voilà, je vous informe que...
Sauf quand ils sont réunis en congrès. Mais c'est exceptionnel.
Une fois,
merci.
Il a le droit de prendre la parole devant le Parlement,
ouais, c'est ça, c'est après.
En congrès.
Ouais, c'est...
Sa déclaration, non, peut donner lieu, hors de sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Oui, bon, ça veut dire que... bon, il réunit le congrès.
Oui, c'est ce qui se passe. Ouais.
Bon, et il leur balance un discours.
Ouais.
Si le congrès souhaite, hein, on fait un commentaire sur le discours, mais il faut qu'il sorte.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui,
entre eux, il faut des commentaires. Mais ça ne peut donner aucun vote. Bon. C'est ça que s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le président ne va pas pouvoir venir à l'Assemblée et dire, messieurs, voilà, je veux que vous votiez ça. Oui, écoutez-moi bien. Alors, oui. Maintenant, je reste là. Allez-y, vous venez au perchoir, vous votez, ouais, vous mettez votre dans l'urne, et je suis là pour contrôler qu'il y ait bien la majorité. Voilà. Ça, c'est interdit. C'est ça la séparation des pouvoirs.
Oui, du coup. C'est un peu simpliste, quoi. On va dire.
C'est minimaliste.
Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr, je vais essayer d'inventer ce que vous...
Ça, c'est l'article 18, c'est le seul article que les défenseurs de la démocratie représentative vont pouvoir vous opposer lorsque vous leur dites, écoutez, je disais, votre constitution n'établit pas la séparation des pouvoirs. Au contraire, elle les confond. Le seul argument qu'ils ont, c'est de dire, mais attendez, il y a quand même l'article 18. Article 19. Les actes du président de la République... autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 51, 1, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Bon. C'est-à-dire que les actes du président de la République, en général, sont contresignés par le Premier ministre, sauf tout un tas d'actes, et les plus importants, puisque... l'article 8, c'est...
Bah lui, il nomme le Premier ministre, alors...
C'est, oui, c'est nommé, c'est le Premier ministre, ils n'ont pas contre-signé. L'article 11, bon, c'est la déclenchement du référendum. Le 12, c'est...
Dissolution.
La dissolution de l'Assemblée, il n'a pas besoin qu'il soit contre-signé. Le 16, c'est les pleins pouvoirs. Le 18, c'est le droit de grâce. Le 54,
non,
oui, c'est les communications. Ouais. Mais les communications, elles n'ont pas besoin d'être signées par le PM.
Ouais.
Le 54, c'est si le CS...
Engagement international. C'est à propos d'engagement international.
Voilà. Engagement international. On sait bien que la diplomatie, c'est que lui. Le 56.
Conseil constitutionnel.
Les nominations.
Le Conseil constitutionnel.
C'est-à-dire ceux que lui, il a le droit de nommer. Conseil constitutionnel. Il a, c'est contre-signé par personne. Et le 61.
Ouais, une pas... législation atteinte aux droits et libertés garantie.
C'est le Conseil.
Il
saisit le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi du Conseil d'État ou là, sur renvoi du Conseil d'État ou de la contestation.
Les actes du PR 61.
Non, mais il y a deux 61. Je disais le deuxième.
Oui, 61-1.
Ah oui.
Non, c'est 61 tout court.
C'est 62 là.
Les lois organiques avant la proposition.
Conseil constitutionnel.
Ah oui, les lois peuvent être déférées par le Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République. Non, pardon. Hein. Oui, c'est-à-dire que le PR peut, avant la promulgation d'une loi, la déférer au Conseil constitutionnel. Et là, il a besoin de personnes pour le contresigner.
Oui, dans quel cas, c'est ça que je ne comprends pas.
Oui, bon, c'est pas d'une.
Le délai peut être amené à 8 jours. C'est compliqué.
Non.
C'est un rapport au Conseil constitutionnel, en tout cas.
Oui, c'est lorsqu'ils considèrent qu'une loi qui pourtant a été votée par l'Assemblée nationale serait contraire à la Constitution.
Oui, doit être vérifiée par le Conseil constitutionnel.
Il l'envoie au Conseil constitutionnel pour la faire vérifier.
Oui, c'est ça. Bien.
On
ne
sera pas là, je crois.
Non, pourquoi ? Non. Oui. Oui, c'est un peu...
Voilà, et article. Oui.
Un petit...
bah, après, on a fini avec le PR, là. Ouais, on arrive au petit 3 de gouvernement.
C'est un peu sévèrement, ça.
Bon. Alors, c'est intéressant. Hein.
Mais c'est très intéressant parce qu'on voit que sur certains articles, on annonce la sauce, on précise et c'est de la vie. Et à d'autres, on glisse avec des phrases. Un peu alambiqué, ouais. Très simple. Ouais. Ouais. Et on ne pourra pas être
alors,
on va pas être le prochain.